Donc, je me souviens de cette image en 2004 d'un magazine anglais avec un vase et des fleurs, des tulipes qui pendaient de chaque côté comme mortes, inanimées, sans eau. Et cet article parlait de la toxicité des cosmétiques. Et alors, ça m'a fait un effet, mais je me suis dit, mais c'est une bombe!
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast beauté et bien-être. Aujourd'hui, au micro de Beauty Toaster, j'ai invité Pascale Brousse, la créatrice de l'agence Trend Sourcing. Pascale est une spécialiste des tendances de la beauté, la santé et le bien-être. Son job consiste à humer l'air du temps et à observer les changements dans les habitudes de consommation. Alors, je lui ai posé pas mal de questions sur le sujet, mais j'ai aussi profité de cet épisode pour tester un nouveau format avec des questions d'auditeurs qui s'interrogent sur l'avenir de la beauté. Merci à toutes celles et ceux qui ont répondu à l'appel que j'avais lancé sur Instagram. Certaines questions étaient plus centrées sur la formulation, donc je ne les ai pas gardées pour cet épisode, mais promis, je les garde pour un autre invité. Voilà, vous savez tout. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Pascale.
Bonjour Chantal.
Pascale, vous travaillez depuis des années dans la cosmétique. En quoi consiste votre métier ?
Mon métier, ma passion depuis plus de 20 ans, consiste à montrer, à renseigner les signaux faibles de par le monde qui seront prépondérants demain. Donc en termes de produits, de lieux, de services, mais également tout ce qui est sociologique. Dans mes années d'école de commerce, j'ai pris l'option sociologie et ça m'a également passionnée. Donc je fais beaucoup d'études et dans mes études, elles démarrent systématiquement par de la sociologie. Que veulent les citoyens, les consommateurs? Je fais exprès de dire d'autres mots que consommateurs,
ouais.
Car je n'aime pas que l'on soit réduit à de la consommation.
Voilà,
ça peut être aussi les utilisateurs. Voilà, tous ces mouvements, donc que voulons-nous et qu'apporter en termes de sens. Moi, j'aime évidemment aider les entreprises à développer des produits, des services qui soient porteurs de sens, bons pour la planète et pour nous-mêmes. Donc, ce sont des réalisations d'études dites macro, par exemple, où en sommes-nous autour de l'âge, le vocab des seniors, qui est dans cette catégorie, comment se considèrent ces personnes. Bon, ben justement, là, ça revient complètement sur le devant de la scène après s'être occupé longtemps des millénials. On s'occupe comme on appelle, les silvers également.
Ouais.
Donc, il y a d'un côté des études macro sur où en est la femme avec son corps, comment le corps et les représentations de la corporalité évoluent en Europe, aux États-Unis, en Asie. Donc, c'est un travail avec des experts, systématiquement des interviews d'experts, de citoyens, bien sûr, avec de l'ethno même, qui peut être assez passionnante. Oui, je voyage depuis mes 16 ans. Ça a démarré par un mois et demi au Mexique. Ça a été une révélation. Et j'y suis retournée après, un an en Amérique latine. J'ai fait mon premier tour du monde à 18 ans. J'avais un stage à faire et j'avais choisi de le faire en Australie. Et donc, j'ai pris un billet tour du monde. On était en 85. Voilà. J'ai pas arrêté depuis. Donc, j'ai eu des métiers en rapport, d'ailleurs, avec les voyages. Voilà, donc des études ou des études ciblées, comme par exemple, où en est-on sur le green, ce fameux vocable, le vert, le bio, le développement durable, le clean. C'est l'étude actuelle que je sors avec Florence Bernardin, Laurence Quezet et Hugo Villemin. J'anime des conférences, des formations. J'en fais une bientôt pour Cosmé Bio. Et j'ai même des ateliers bien-être.
D'accord.
Et c'est plus difficilement, j'ai remarqué, compréhensible pour certains qui ne voient pas toujours le lien entre mon métier dit de chasseur de tendance à l'origine. Maintenant, je lis même que certains journalistes, on voit tendanceur. Bon, voilà, pourquoi pas. Et Alors que dans ces ateliers sur les clés du sommeil, de gestion de stress, d'alimentation, pour moi, c'est complètement en phase avec mes tendances bien-être.
Bien sûr, ouais, ça se recoupe.
Puisque l'origine de mon métier, c'est bien sûr de regarder tout ce qui contribue à notre mieux-être.
Et alors, vous avez été une des premières à pressentir certains changements dans la beauté, notamment avec le bio. Ça n'a pas été simple, hein, je crois, pour
non,
vous, alors que c'était une évidence.
Voilà, c'était une évidence. Je le vivais. Et effectivement, j'étais chez L'Oréal. Hein, j'y suis rentrée en 91. Je suis restée 5 ans commerciale sur le terrain. Donc, c'est important pour moi de le dire parce que j'ai toujours gardé cet angle extrêmement concret. Et ensuite, je me suis occupée de la coordination des marchés Asie et Amérique du Nord chez Biotherm. C'est là où j'ai découvert mon métier. C'est là où les personnes me disaient « Mais nous, on vit ici, là, à Tokyo, à Séoul. Comment t'es au courant ?» Et en fait, même, je ne connaissais évidemment pas la langue, mais j'arrivais à déchiffrer que c'était nouveau, intéressant, innovant en termes de lieux, de produits. Voilà. Et le bio, je le voyais déjà pointer son nez au Japon.
D'accord.
Évidemment.
À cette période-là ?
Oui. Oui. Évidemment, en Angleterre, aux États-Unis. Et quand j'ai restitué, je me souviens des premiers boards que j'ai faits, je les ai gardés comme souvenir. Il y en avait 5 chez Biotherm. Donc, il y avait bien évidemment le bio. Il y avait aussi tous les produits pocket, travel size. Il y avait aussi tout l'angle de la santé. Bon, mais en tout cas, pour revenir au bio, c'était trop tôt quelque part. Et bon, je me suis fait un peu envoyer sur les roses. On m'a dit, mais enfin, Pascal, c'est n'importe quoi. Hein, le bio, alors en sélectif, si vous voulez, parce que pour le moment, on le voyait dans des produits qui étaient plutôt
dans les magasins
allemands,
bio.
Qui étaient alimentation bio. Effectivement, ça avait ce côté. Moi, quand j'allais, je faisais mes courses en bio. C'était tout marronasse, entre guillemets. On était loin d'un Whole Food, vous voyez. Donc, c'était presque sectaire. Hein, c'est ce qu'on nous disait.
Tout à fait.
Au début, j'osais à peine le dire. Et c'est très intéressant, ce passage de la conversion vers le bio. D'ailleurs, il aurait le mérite d'être encore plus diffusé. Hein. Je lis des témoignages de blogueuses aussi, y compris en alimentaire, parce que c'est une vraie rééducation du goût.
Ouais,
hein, autant c'est une évidence quand pour les fruits et légumes, on voit tout de suite la différence tomate, pomme, etc. Autant quand vous êtes habitué, par exemple, à des gâteaux industriels et que vous passez au bio, bah, tout d'un coup, vous n'avez plus les exhausteurs de goût, vous n'avez plus quantité d'ingrédients chimiques et vous avez l'impression de perdre. Alors, il y a vraiment cette phase de transition hein, et c'est pareil dans la cosmétique bio ou naturelle, c'est une rééducation. Et moi, je le dis en toute sincérité, j'ai beaucoup de mal à rentrer, par exemple, dans un Sephora qui rend plein de services par ailleurs, qui a lancé son label Clean at Sephora, donc fabuleux depuis le 1er juin 2018. Mais je me sens agressée par les parfums, par tous ces ingrédients, en fait, molécules de synthèse, c'est trop
c'est
d'un
trop.
Coup.
Mmh, mmh.
Voilà. Donc effectivement, il y a eu le bio et puis ça m'a pris aux tripes. Hein. J'ai un signal particulier que je vis dans mon plexus, dans mon corps, quand je sens que c'est un message d'alerte. Ça m'a fait la même chose en 2004, quand j'ai vu une image d'un magazine anglais avec un vase et des fleurs, des tulipes qui pendaient de chaque côté comme mortes, inanimées, sans eau. Et cet article parlait de la toxicité des cosmétiques. Et alors, ça m'a fait un effet, mais je me suis dit, mais c'est une bombe. Et j'ai commencé à en parler. Je voulais absolument prévenir. Attention, il n'y a pas que l'alimentation, parce qu'on était au début. Hein, il commençait à y avoir la vache folle, les premiers scandales. Il y avait des scandales sanitaires. Mais il n'y avait pas d'écho, si vous voulez. Et on me disait même, mais Pascal, mais ça ne va pas arriver dans les cosmétiques. Ouais. Qui va s'intéresser à ça ? Voilà, donc c'est un peu, vous voyez, vous parlez aussi de médecine intégrative, de toute cette notion de bien-être. C'était compliqué en 2000 quand j'ai lancé Trendsourcing sur la beauté fait partie de la santé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est toutes les médecines. prenez la médecine chinoise, ayurvédique, Hippocrate, notre médecine hippocratique. Ce sont les médecins qui faisaient les phares pour les femmes patriciennes, qui avaient des vertus curatives. En Égypte, le kohl avait des vertus antiseptiques. Voilà, donc c'est nous venons, ce sont nos racines. Et encore une fois, les pays asiatiques, nord-américains sont beaucoup plus sensibilisés à cette beauté de l'intérieur, in-out. Alors maintenant, ça y est, c'est complètement sur le devant de la scène. Je suis très ravie. Hein, ce côté healthy qui a eu un essor énorme grâce aux millénials qui s'en sont emparés avec cet esprit gaming, hein, le jeu, comparer ses résultats, se faire des défis, bien entendu grâce à Instagram, hein, poster tout d'un coup des tas de photos de produits alléchants, de ses courses sportives, le côté... et puis tout d'un coup, le mot diète qui avait un aspect... très privatif. Hein, j'aime beaucoup aussi l'étymologie, des mots travaillés avec des... et sociologue, tout d'un coup est devenu détox. C'était glam, glamour, c'était voilà, on y allait. Alors ça veut dire beaucoup de choses maintenant, la détox, hein, mais on n'est plus forcément dans la privation, on est plus dans justement l'équilibre.
Se faire du bien, etc.
Que nous sommes nombreux à rechercher. Hein.
Et alors, on est à un tournant hein, entre les enjeux écologiques, sanitaires, les applis beauté, l'arrivée de marques différentes, très dynamiques. L'univers des cosmétiques est pas mal bousculé. Hein. Le bio, le green, le vegan, le clean, est-ce que toutes ces tendances vont dicter la cosmétique de demain, selon vous, ou alors est-ce qu'on verra émerger d'autres tendances encore ?
Alors, il y a d'autres tendances. Hein. Je vais revenir juste après à tout ce qui est item bio, clean, naturel. Il y a le champ du microbiome qui est passionnant. Hein, ce que les Chinois disaient de manière empirique depuis des millénaires, le lien entre les intestins et le cerveau, les intestins, le deuxième cerveau, nous pouvons maintenant le démontrer scientifiquement. Et effectivement, c'est interpellant parce que dans la cosmétique, et je me souviens d'une conversation, notamment avec Jean-Claude Lejolif, il me dit « Non mais tu te rends compte, on a passé des années à éviter les bactéries dans la cosmétique et maintenant… »
On y revient.
On y revient avec justement les bonnes bactéries, les bons probiotiques dans la cosmétique et vous avez donc un certain nombre de gammes dont Marie Drago vous avez interviewé, qui s'en occupe. Donc ça, il y a le champ de la personnalisation qui est directement corrélé, hein, bien sûr. Et on a déjà des marques qui sont dans la semi-personnalisation ou plus ou moins de manière avancée. Et moi, je me pose la question depuis un certain nombre d'années, y compris en entendant les transhumanistes, est-ce qu'on va continuer à utiliser la crème de monsieur, madame, tout le monde, de son voisin, puisqu'on a la capacité maintenant pratiquement d'obtenir la crème qui correspond à son génome, à son type de peau,
grâce
à l'évolution de sa peau.
Notamment.
Oui, et puis grâce au séquençage de l'ADN, au fait que les coûts ont dramatiquement baissé. Personne ne pouvait se l'offrir avant. Il y a certains experts qui prédisent que ça va tomber à une centaine d'euros. Vous voyez que ce sera très accessible.
Ouais.
Donc on pourra savoir si on a un gène précurseur de la peau sèche, de pouvoir avoir du coup un dosage de crème extraordinaire. Donc il y a tout ce champ-là, il y a tout au niveau de l'avenir, il y a tout le champ de l'âge hein, dont je parlais, les frontières de plus en plus floutées. Donc on ne s'occupe pas pour le moment de la cosmétique après 80 ans. Il y a là un champ de développement parce que vieillir, c'est vivre.
Oui, tout simplement.
Tout simplement, voilà. Et c'est aussi ce qui m'anime dans tout ce côté clean, bio, naturel. C'est ce respect du vivant hein, que nous avons, pour certains d'entre nous, comme disent les sociologues, les philosophes, perdus. Il y a beaucoup d'articles sur le sujet. sur le et ça a trait au développement durable. C'est pour moi la tendance d'avenir forte. L'innovation passera par la responsabilité sociale et environnementale, ouais. Passera par le s'occuper de la conception d'un produit ou d'un service de A à Z.
D'accord.
Pour le moment, une des dernières frontières, c'est les packaging. On n'a pas encore, dans des systèmes de pompe, de réellement de biodégradabilité, voilà, il n'y a pas encore suffisamment d'entreprises qui sont positionnées pour remplacer le plastique, pour éviter plastique à usage unique, etc. Les entreprises y travaillent. Hein. Mais en même temps, c'est inconcevable quelque part. Vous ne pouvez pas lancer un produit bio dans un pack
polluant.
Qui est polluant.
Enfin, bien sûr.
Voilà, c'est exactement ça, vous voyez. Mmh. Et moi, je pense que dans justement toutes les tendances d'avenir, il y a évidemment la transparence, hein, mais il y a le côté.
Transparence des formules.
Transparence des formules, transparence à tous les niveaux. Mmh. Dire les choses. Mmh. L'éthique, c'est la cohérence, c'est ce qui est demandé actuellement. C'est pour ça qu'il y a un bouleversement énorme avec ces fameuses indie brands que l'on appelait avant les marques niches. Indies, qui vient du label, qui vient des Américains, de l'industrie musicale, hein, les labels indépendants. Donc, bien sûr, pour eux, c'est beaucoup plus simple de se créer, comme on dit, from scratch. Hein, on part de la feuille oui. blanche. Et donc, on peut aller directement avec des valeurs environnementales, sociétales, en toute franchise. Et parfois, ils lancent vite pour prendre la place, mais ils disent, on n'est pas parfait. On n'est pas encore arrivé à ce qu'on voulait. Là, on travaille à éliminer le plastique. Ce sera fait en 2022. Pour le moment, on a choisi l'aluminium parce qu'on pense que ça conserve mieux les produits. Et voilà où on en est en termes de recyclabilité de l'aluminium. Mais il y a encore plein de choses à faire en transparence. Voilà. Alors, on est de plus en plus renseignés. Hein. Vous avez évidemment des sites qui renseignent comme Slow Cosmétique, comme Cosmos, EcoCert, le EWG, hein, qui est un label qui compte de plus en plus pour les États-Unis et pour l'Asie.
D'accord,
notamment pour la Corée.
Et qui...
Ils sont assez puristes. Hein.
Ouais.
Ah oui, vous irez voir.
Plus puristes que
alors,
les...
Alors, pas forcément plus puristes qu'un Cosmos ou que les labels ou qu'un Atrou. Mais ils ont des items que l'on ne voit pas ailleurs. Par exemple, ils ont tout ce qui concerne le cancer.
D'accord.
Et vous avez des marques aux États-Unis comme Hint Beauty qui se disent carcinome free.
Ok.
C'est fort.
Ouais, c'est fort.
C'est très fort. Alors.
Ça, c'est pas des allégations qu'on peut avoir
non,
en Europe
voilà.
et en tout
il
cas pas en France. Hein.
On a des allégations en Europe qu'on peut pas utiliser par rapport aux allégations américaines. Vous allez dans des magasins aux États-Unis où vous voyez des marques qui disent non toxic cosmetic. Bon, on pourrait pas dire ça. Donc, cosmétique non toxique. Ça passerait difficilement. Donc, vous voyez, vous avez donc des items qui sont sur ce côté cancer, effectivement, qui est quand même vraiment interpellant. Et vous en avez aussi d'autres, surtout le côté bactériologique. J'avais regardé différentes choses, mais en tout cas, voilà, en ce qui concerne les labels.
D'accord. Et donc, pour vous, en fait, le greenwashing, il vit un peu ces dernières heures ?
Oui, moi, je pense que le greenwashing vit ces dernières heures. Il y a beaucoup trop maintenant de manières de s'informer. Tous les jours, il y a une nouvelle alarmante. Avant, c'était une fois par an, puis une fois par mois. Maintenant, c'est quasiment tous les jours. Ouais.
Quel conseil vous auriez à donner aux consommateurs justement pour qu'ils s'y retrouvent quoi, parce que
alors
face à tout ça, on est
face à tout ça, il y a les fameuses
perdu.
Applications, alors qui font énormément débat dans la profession, mais ça le mérite ces applications depuis 2 ans qu'elles existent, hein, notamment Clean Beauty ou Yuka qui s'est mis en cosmétique très récemment, de faire bouger les lignes.
Ouais. Il y en a eu d'autres avant.
Il y en a eu d'autres avant, bien sûr, absolument.
Clean Beauty, enfin, il y en a eu d'autres.
Oui, oui. Puis ça a démarré également aux États-Unis avec Think Dirty, par exemple. Mais ça force les industriels à repenser les formules. C'est pas simple, c'est compliqué. Il faut aussi que le grand public le sache. Reformuler un produit, ça peut prendre des années. C'est une architecture. Vous pouvez pas dire j'enlève le silicone, j'enlève le phénoxyéthanol, le diméthicone, en remplaçant par un autre ingrédient. Déjà, il faut l'avoir. Bon, il y a de plus en plus de remplacements acceptés en chimie verte ou en voilà. Ou en ingrédients naturels, mais il faut refaire toute la formule. Voilà. Donc, c'est coûteux. D'abord, c'est coûteux. Vous pouvez avoir des réticences aussi, avec des recherches et développements qui travaillent d'une certaine manière depuis 20 ou 30 ans, et tout d'un coup, on leur demande de tout changer. Oui. Bon, voilà. Ça prend du temps. Et vous avez les labels qui sont toujours un gage de réassurance. Donc, EcoCert, qui est devenu Cosmos, le EWG dont je parlais. Mais il faut également savoir que ça a un coût.
Oui, voilà.
Et moi, j'aimerais bien que ce soit porté à la connaissance du grand public. Car pour le moment, je ne le lis pas. Ce sont les marques qui me le disent. Que oui, c'est coûteux de se faire certifier EcoCert, Cosmos.
D'ailleurs, certaines ne le font pas.
C'est pour ça que certaines ne le font pas. C'est pour ça que les indie brands ne le font pas. Parce qu'il faut certifier les formules, les producteurs. Alors certes, elles ont un cahier des charges qui est strict, sur lequel on peut vraiment se reposer. Mais en même temps, donc, vous avez toutes ces nouvelles marques qui arrivent en disant tout ce qu'elles n'ont pas dans les formules. Et évidemment, elles disent ce qu'elles ont. Il ne faut pas dire tout. Mais vous avez déjà, si vous voulez vous abaisser, votre charge mentale. Vous voyez, dans cette formule-là,
je ne vais pas trouver
de... Parce qu'il y a les nanos aussi. Bon, comment savoir s'il y a des nanos, pas de nanos? Comment savoir s'il y a des organismes, s'il y a des génétiquement modifiés ou pas? Donc, en général, ces marques-là en parlent. Voilà, donc il y a ce côté-là. Et puis, il y a le décryptage de Linky. Voilà.
Donc, qui n'est pas simple.
Non, qui n'est pas simple. Cette nomenclature américaine, donc, qui a été fondée en 73, elle commence à être ancienne. Elle est devenue...
Alors justement, vous avez une astuce à nous donner, justement, par rapport à cette liste INCI, qui est la liste des ingrédients. Vous dites qu'il faut se concentrer sur les 5-6 premiers.
Alors, dans les 5-6 premiers, déjà, vous avez à peu près 70% de votre formule, puisque c'est par ordre décroissant. Donc, le premier ingrédient que vous voyez, en général, est celui qui est le plus prépondérant. C'est souvent l'eau. L'eau, c'est jusqu'à 70% d'une formule. Alors, en même temps, on peut aussi savoir que les ingrédients d'origine naturelle auront une dénomination latine. C'est le cas de la plupart des plantes. Et les ingrédients issus de la pétrochimie seront en anglais.
D'accord. Donc, après, le problème de l'Aïsinki, c'est qu'on n'a pas de pourcentage,
en fait. Voilà, on n'a pas de pourcentage pour...
On ne sait pas à combien sont dosés les ingrédients.
Non, on ne sait pas à combien sont dosés les ingrédients. Ça, c'était pour préserver les fabricants de ne pas tout divulguer, de ne pas pouvoir copier les formules. Il y a également des manques au niveau de l'item parfum. Dans les parfums, on ne peut pas savoir s'il y a des allergènes. Donc, voilà. En tout cas, j'espère qu'à un moment donné, la liste INCI sera tout simplement...
Dans la langue du pays.
Enfin,
c'est la logique.
C'est la logique pour que tout le monde puisse la lire. Après, il y a aussi une astuce qui est le bon sens, qui est je regarde à peu près combien d'ingrédients il y a dans la formule. Parce que moi, je vous le dis en toute honnêteté, même un produit bio, si je vois que, par exemple, il y a 20 ou 25 ingrédients, je ne le prends pas.
Ouais.
C'est trop.
C'est trop.
Et comment ma peau va absorber autant de choses?
Bien sûr.
Voilà. Donc, et c'est aussi très compliqué de faire des formules...
Simples. Avec genre 10 ingrédients, quoi.
C'est... Exactement. Exactement. Ouais. Vous avez une grande marque du sélectif qui a sorti un produit avec 10 ingrédients, qui l'a appelé en tant que tel, 10, une prouesse.
Oui, c'est une prouesse. Voilà. C'est sûr.
Absolument.
C'est sûr. Alors, Pascal, on va passer aux questions des auditeurs. Alors, j'ai une question de Pauline qui se pose donc la question de l'emballage dont on a un peu parlé précédemment. Les contenants en verre sont-ils la solution en matière d'éco-emballage responsable pour les produits de beauté?
Alors, les contenants en verre sont en partie, répondent tout à fait à cette question. c'est recyclable à l'infini. C'est malheureusement pas forcément pratique pour le voyage, hein, mais il y a des marques qui tiennent à conserver leurs flacons en verre, à le rendre parfois donc, opaque, notamment pour la conservation des huiles.
Ouais. Ce qui évite les filtres solaires dedans.
Aussi. Voilà. On peut imaginer aussi des flacons plus plats pour que ce soit plus écologique en termes de transport. Voilà. Après, là aussi, il faut savoir d'où vient le verre, si vous voulez. Quand vous vous renseignez, quand vous regardez sur les sites référents, est-ce qu'il vaut mieux un plastique complètement recyclable, dont il y en a encore peu, ou du verre qui vient de l'autre bout de la planète? Vous voyez, on est tout le temps en train de faire des arbitrages. C'est un peu comme est-ce que je continue à utiliser du cuir ou des chaussures en cuir, ou est-ce que je vais sur le vegan? Et en même temps, le vegan, c'est de la pétrochimie.
C'est ça.
Vous voyez, est-ce que je passe effectivement à la voiture hybride électrique est-ce que je reste à la super dernière génération essence ou diesel? Encore faut-il aimer la voiture.
Voilà.
Bon, là, vous arrivez à trouver des réponses. Alors, on vous dit finalement, c'est moins bien pour la planète de construire une voiture hybride. En termes de composants, ça fait plus de dégâts environnementaux que le diesel. En revanche, à l'usage, il vaut bien mieux avoir une voiture électrique hybride que diesel. Donc, voilà. Donc on est chacun aussi avec notre compteur.
Tout à fait. Hein,
c'est ce que disent les sociologues. Ouais. On fait notre cuisine interne. Et est-ce que j'achète ça
et pas, ou ça, ou ouais. ça ouais. Et justement, par rapport aux emballages, je sais que Lush va ouvrir
a ouvert
une boutique
à Manchester.
Comme
Berlin.
Sans emballage.
Milan. Fabuleux, des magasins sans emballage. Voilà. On peut aussi citer Eco Plaza en Hollande, hein, qui va essaimer. Mais Eco Plaza, c'est au-delà de la cosmétique.
Voilà.
Hein, c'est tout.
Donc ça aussi, ça peut être aussi une...
C'est fabuleux.
Alors, j'ai une autre question de Romain, qui a été très actif, Romain.
Ah, ouais.
Comment les jeunes marques cosmétiques naturelles, notamment les indie brands, hein, aux formulations assez minimalistes, peuvent-elles attester de leur efficacité?
Alors, quand vous parlez avec les concepteurs, les fabricants, ces personnes qui développent ces fameuses marques, elles vous disent, quelque part, elles ne comprennent pas, même pas l'objet de la question. C'est un peu comme si vous parliez avec un millénial du no gender free, qui est une autre des tendances, d'ailleurs, que je n'ai pas dit tout à l'heure. Il ne voit pas l'objet pour lui, vous voyez?
Oui.
Parce que dans un produit naturel, vous utilisez effectivement des composants bio ou le plus naturel possible. Hein. Donc, par essence, ils sont plus efficaces. Enfin, vous voyez, quelque part. Et puis, en même temps, est-ce que ce n'est pas antinomique de mettre de l'efficacité? En quoi la beauté devrait-elle... Ça veut dire quoi une beauté efficace?
Ouais. Non, mais une crème efficace.
Ça veut dire
ou
quoi
ouais,
voilà.
Ouais, ouais.
Et effectivement, ces marques ou les marques les plus intègres sont beaucoup moins dans des surpromesses. Si vous voulez, un Oshka qui est un peu le docteur Oshka qui est un peu le puriste.
Oui, il n'y a jamais eu de promesse.
N'est pas dans la surpromesse. Ne va pas commencer à vous dire on va enlever vos rides. Parce que, voilà, bien sûr que vous pouvez trouver des marques avec des flouteurs. Moi, j'ai ma maman qui a 85 ans, elle me le disait encore au téléphone hier. Elle me dit, oui, toutes ces marques. Bon, c'est vrai que ça marche bien, mais au bout d'une heure, deux heures, enfin, en milieu de journée, c'est plus pareil. Hein.
Oui, parce qu'il n'y a forcément pas tous ces ingrédients qui permettent de flouter les rides, qui permettent de...
Toutes ces particules de mica et autres réflecteurs, bien sûr, mais effectivement.
C'est un choix.
C'est un choix. Et puis, c'est pareil, c'est ce qu'on disait au début, c'est un peu l'éducation de la peau, hein, cette conversion vers des produits plus naturels pour que la peau aussi relance son propre système d'elle-même.
Hein. Ouais.
Et là, ça ouvre le champ à plein de choses. On entend beaucoup plus maintenant de dermatologues dire arrêtez de vous savonner tous les jours. Ce que font les pays scandinaves, ils le sont, ils sont dans le less is more. Vous décapez votre peau, vous allez vers des produits, vous allez vers des dermatites, vers des problèmes dermatologiques. Alors certes, si vous transpirez, lavez-vous tous les jours les parties qui transpirent, mais surtout pas tous les jours le devant des jambes, des bras,
le ventre.
Avec un bon savon qui respecte le pH, et éviter les gels douches, et de préférence, quand vous vous faites un shampoing, bah, vous n'avez même pas besoin de savon, vous utilisez le résidu du shampoing
sur le
corps. Nettoyer. Donc tout ça, c'est du bon sens,
c'est du bon sens
en fait.
Ouais.
C'est ce à quoi nous revenons. En tout cas, c'est ce qui est demandé.
Ouais. Alors Isabelle demande pourquoi est-ce si difficile de trouver des produits pour le teint, pour toutes les couleurs de peau, en version bio ?
Ah, ben ça c'était une question intéressante. C'est vrai qu'on en trouve moins. Alors je dirais spontanément, probablement car c'est plus coûteux, hein, pour avoir été chez Biotherm qui avait lancé du maquillage qui n'a pas fait long feu. Là, j'ai vu le coût que ça engendrait. C'est colossal. Voilà, effectivement, de lancer 30, 40 teintes. Alors à l'époque, il y avait... On disait qu'il y avait seulement 5 ou 6 teintes qui marchaient vraiment. Maintenant, ce n'est plus du tout vrai, hein, puisqu'on on sait que la peau dite, enfin, que l'on appelle nous caucasienne, qui veut dire
la peau blanche,
représente de moins en moins de monde, hein, sera à moins de 15% de la population dans les années à venir, hein, en tout cas pour sûr en 2050. Hein. Aux États-Unis, depuis 2013, le nombre de naissances de populations issues d'Amérique latine, afro-américaine, a dépassé le nombre de naissances.
D'accord.
Donc on voit que ça va très très vite. Alors maintenant, donc on est dans on n'appelle même plus ça la cosmétique éthique, ethnique, hein,
non,
d'ailleurs,
non.
On appelle ça
ridicule.
Voilà, on est dans le multiculturel. Et donc, il y a des gammes qui viennent. Hein. D'ailleurs, le maquillage naturel bio est une des dernières frontières avec le packaging.
D'accord.
Hein,
ouais.
Le centre d'intérêt, c'est l'objet de l'étude que j'avais réalisée l'année dernière et donc où on voyait nettement pointer beaucoup dans les pays aux États-Unis, Angleterre, aussi en Australie, des nouvelles marques, hein, qui arrivent avec ce choix de teintes, y compris en vegan, en ingrédients ultra frais, que ce soit pour les rouges à lèvres, que ce soit pour les fonds de teint.
D'accord.
Mais vous avez aussi, en France, vous avez du choix. Il y en aura de plus en plus, il va être de plus en plus largement distribué. Léa Nature, Sobioéthique, a sa gamme et travaille activement sur le sujet.
Alors, il y a Chloé qui demande si le bio proposé en grande surface n'est pas un peu comme les produits alimentaires bio bourrés d'huile de palme. Est-ce que ça ne cache pas forcément quelque chose ?
C'est vraiment du bio. Si vous avez de la certification, ça ne peut pas être autrement. Vous devez répondre à un cahier des chartes qui est très strict, qui est extrêmement contraignant, hein, sur les modes de fabrication, qui va dans une transparence qui est grande, sur le respect humain. Parce qu'au-delà de l'environnement, c'est évidemment le respect humain qui est en jeu. Donc oui, on peut acheter en toute confiance. Et d'ailleurs, on voit quantité d'industriels arriver cette année en GMS, donc en réseau de grande distribution, hein, aussi bien Unilever avec Love Beauty and Planet, L'Oréal avec La Provençale et qui
Garnier
relance
aussi.
Garnier qui avait déjà... qui avait été lancé il y a 10 ans déjà au niveau du bio. Vous voyez, c'est ce qu'on disait également, quand on est trop tôt, c'est trop tôt.
C'est
voilà.
Ça.
Et donc, avec Phytonutrients, ils ont acheté Logona aussi. Voilà, Henkel lance NAE.
Et est-ce que la mode... alors ça, c'est Florence qui pose la question. Est-ce que la mode du vegan est partie pour durer ?
Absolument, ce n'est pas du tout une mode.
D'accord.
Pas du tout. C'est extrêmement sérieux. Et je pense que, tout comme moi, chacun d'entre nous connaissons une à plusieurs personnes qui est devenue végane. Moi, j'en ai 3 autour de moi et dans les moins de 30 ans. Voilà, ce sont des postures éthiques. Alors, sans aller dans l'extrémisme que l'on connaît, hein, mais c'est vraiment une assurance, également une réassurance. Voilà, pas de produits animaux, pas de maltraitance. Du coup, ça n'a pas de maltraitance animale derrière. Alors, il y a d'autres labels qui permettent aussi de voir cela.
Après, la maltraitance animale, de toute façon, en France, enfin en Europe, les tests sur animaux sont interdits depuis des années. Donc,
Oui,
ce qui
oui.
n'est pas le cas dans d'autres pays.
Voilà, espérons que ça, ça le devienne progressivement
En
Chine, notamment. Mais voilà, donc non, alors c'est vrai qu'on peut se dire c'est une mode parce que tout d'un coup, moi la première, je vois mes produits favoris, par exemple en alimentaire, qui tout d'un coup ont vu un logo vegan qui n'existait pas du tout auparavant sur le chocolat, notamment. Bon, mais en même temps, si c'est le cas, et y compris sur les cosmétiques, si vous n'avez pas de cire d'abeille, si vous n'avez pas de soie, etc., bon, bah, autant le dire.
Oui, ouais, bien sûr.
Parce qu'il y a des personnes qui sont très intéressées, et c'est pour ça que vous avez aussi des magasins véganes qui se sont ouverts, hein, que notamment Naturalia a créé, et ça existe aussi en Allemagne, en Suisse. C'est en Allemagne que ça, historiquement,
que ça a commencé.
Que c'est le plus fort, tout comme le bio, hein, ça reste absolument le premier pays, absolument leader en Europe sur la cosmétique bio. Et naturel. Ils font même d'ailleurs toute une classification où vous avez aussi les produits naturels qui contiennent, on va dire, plus de 90% d'ingrédients naturels. Et ce qui est considéré comme naturel, dérivé du naturel, issu du naturel, mais qui ne peut contenir que 1% d'ingrédients naturels. Et vous pouvez avoir...
Bah, d'accord.
C'est long. Maintenant, on est de plus en plus avertis.
Hein. Oui.
Mais vous pouviez avoir une très belle communication avec des belles plantes, des fleurs, mais en même temps, dans la
composition, le produit était,
il y avait quasiment 98% de pétrochimie.
Donc.
Mais tout ça, maintenant, on peut avoir accès à cette information-là.
Ouais.
C'est pour ça que c'est,
ça qui est bien.
Que c'est la transparence qui va driver, comme on dit dans le jargon.
Finalement, c'est ça, la grande tendance, c'est la transparence.
Absolument, C'est vraiment de dire, et y compris, c'est la force des jeunes marques qui osent dire qu'elles ne sont pas parfaites, mais qu'elles y travaillent. Enfin, personne n'est parfait, mais je veux dire qu'elles disent, voilà, on a encore...
de la marge,
on a encore tant de plastique. On n'a pas encore communiqué là-dessus, mais on va le faire. Voilà déjà. En fait, ce qui est rassurant, c'est d'avoir une charte. C'est exactement comme vous rentrez dans un magasin. Ce qu'a fait Franprix avec Noé, ça vous abaisse la charge mentale. Vous avez une charte qui vous dit, voilà, tous les produits ne sont pas bio, mais vous avez l'assurance que fruits et légumes le sont. Pour le reste, ce sont des petits producteurs que nous avons choisis avec soin, selon notre éthique, qui est celle-là. À partir du moment où, en cosmétique, vous avez une charte, vous êtes tranquillisé. Et pour moi, demain, le curseur, il va se déplacer chez le distributeur. Demain, le distributeur va pouvoir être interpellé sur les produits qu'il vend. Il va probablement devoir être garant de ce qu'il vend.
Il va avoir une responsabilité.
Et je soulève un débat, probablement, au niveau de la pharmacie. Parce qu'actuellement, avec notamment toutes ces applications, moi j'entends et je constate autour de moi, et vous avez des témoignages de pharmaciens qui vous disent j'ai des consommateurs qui arrivent, enfin des utilisateurs, qui prennent les produits, qui scannent et qui reposent, qui jettent. Voilà, j'entends ça autour de moi. Ah, mon frère qui utilisait telle marque et tout, il a tout scanné, il a tout jeté. C'est un peu extrême.
Ouais, c'est un peu extrême.
C'est un peu extrême. Mais ça arrive, il faut quand même qu'on le sache. Donc, le garant de la santé, le pharmacien, si demain on apprend qu'il vend des gammes avec des polluants, et je pense notamment aux perturbateurs endocriniens, moi là-dessus, c'est un des sujets sur lequel je suis assez arc-boutée. Pour moi, c'est tolérance zéro. C'est tout, il n'y a pas à tortiller, c'est inconcevable. Quoi. Voilà, bon, donc...
L'arbitrage se fera...
Absolument.
De façon naturelle, finalement.
Oui.
Merci, Pascal.
Merci, Chantal. C'était passionnant. J'ai encore plein de choses à dire.
Mais... Bon, on refera un épisode, je pense.
Ouais,
avec plaisir.
Au revoir.
Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver les notes de cet entretien sur le blog beautytoaster.fr. Si ça vous a plu, et pour ne louper aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, SoundCloud, et n'hésitez pas à nous laisser un avis. Surtout une note. Perso, j'adore les 5 étoiles. Et sachez que maintenant, Beauty Toaster, le podcast, est aussi diffusé sur Deezer. Enfin, chaque nouvel épisode est annoncé sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Alors suivez-nous. En attendant, passez une excellente semaine et rendez-vous mercredi prochain à midi.